Salut Alexandre, ça va bien?
Salut Alex, bah ouais, salut Culture Dub, ça va cool.
Ah ben, un plaisir à toi de prendre un petit peu de temps pour venir nous parler de ce bouquin, la Reggae Ambassadeur 100% Reggae Français qui vient de sortir. Juste pour les auditeurs, on va rappeler que tu es maître de conférence à Marseille, à l'Université de Marseille, que tu es aussi quand même celui qui a écrit les trois bouquins Génération H et qui a quand même aussi le premier Reggae Ambassadeur qui était sur le reggae jamaïcain, on va dire.
Ouais, exactement.
Et tu as quand même fondé le site reggae.fr qui était le premier site pour nous parler du reggae justement en France. Alors justement, Alexandre, plongeons directement dedans. Il y avait le bouquin Reggae Ambassadeur sur le reggae jamaïcain qui était logique, le reggae jamaïcain depuis les années 60-70. Et puis là, juste à enchaîner avec cette envie de nous parler du reggae français. Comment t'es venue cette envie, toi qui as plongé dedans depuis tout jeune? C'était une suite logique au Reggae Ambassadeur jamaïcain?
Ouais, c'est vrai que on va dire on avait fait un petit peu un pari avec Reggae Ambassadeur, la légende du reggae, il y a 2 ans en le sortant, en choisissant de faire un format beau livre avec un beau papier, en offrant un film qui revenait sur les racines du root jamaïcain et tout. Et donc on s'était dit que si le projet marchait, on essaierait de rendre hommage aux activistes et aux militants français qui depuis le début des années 80 ont porté ce mouvement. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire et que le reggae français a encore moins de visibilité que le reggae jamaïcain au niveau des médias mainstream en France. Donc, on a reçu le prix Charles Cros au festival Bab El Med pour la légende du reggae. On a eu beaucoup, beaucoup de retours sur ce film dans Le Monde, dans L'Humanité, dans Marianne, dans plein, plein, plein de presse. Et donc, chose promise, chose due. Excuse-moi, je m'étouffe.
Non, je t'en prie.
Donc, chose promise, chose due, on s'est lancé dans le projet Reggae Français ces 2 dernières années. Et donc, on a construit la problématique du film et on s'est mis à l'œuvre pour remaqueter un beau livre de plus de 200 pages.
Alors, on va dire que c'est un très, très beau livre avec de magnifiques photos, avec des textes qui présentent tous les artistes de l'histoire, enfin, en tout cas, une grande partie des artistes de l'histoire du reggae français. Est-ce que, aussi, c'était pas le bon moment? Parce qu'il y a eu une période, on a à peu près la même génération tous les deux, bon, le reggae français, il est arrivé avec le reggae des Antillais, on va dire, sur Paris, quand même, avec ce côté ragamuffin, il y avait eu Serge Gainsbourg avant, il y avait eu un petit peu Bernard Lavilliers, il y avait eu deux, trois personnes comme ça qui avaient tâté du terrain, mais c'est vraiment par les Antillais que les sound systems, le reggae est arrivé. Puis, à un moment donné, moi, j'ai eu un peu peur. Personne ne voulait en parler du reggae. Milieu des années 90, il y a le dub qui arrivait, mais le reggae, on ne savait plus trop où il allait. Et puis là on peut dire ce qu'on veut, même si les grandes ondes ne suivent pas. Les festivals sont remplis, il y a plein d'albums qui sortent, ça distribue, ça va un peu partout. C'était quand même le bon moment de parler de cette histoire du reggae français.
Alors c'est vrai que, en tout cas, c'était pour nous le moment qui était important parce que on a fêté les 20 ans de reggae.fr et que on a une histoire intimement liée à pas mal d'artistes reggae. Et puis il y avait une volonté aussi, c'était de rendre hommage à un moment donné où, même si les médias mainstream n'en parlent pas, on a des groupes comme Damik ou Danakil qui font la tournée des élites, on a la nouvelle génération avec Bigaranx, Mokalamiti ou Naman qui a des très bons forwards, les Generation également. Et donc ce qu'on avait envie, c'était de dire à la jeune génération, n'oubliez pas où sont vos fondations. Et les fondations, donc, elles débutent dans les années 80 avec la diaspora africaine, en fait, Pablo Master et beaucoup d'autres gens qui sont dans son sillage, qui montent des sound systems et qui vont adapter la culture sound system anglaise, puisque à l'époque, la France regarde beaucoup le reggae, mais aime beaucoup et apprécie beaucoup le reggae, mais regarde beaucoup vers Londres. Et donc, c'est comme ça que la diaspora africaine va d'abord adapter et importer la thématique sound system reggae en France, et puis il va adapter le français. Ils vont choisir à la suite de Daddy Yod et Pablo Master et des Sai-Sai d'arrêter de quitter l'anglais pour vraiment se lancer dans des morceaux dans la langue de Molière.
Oui, tu le dis d'ailleurs dans le bouquin, tu le dis, Pablo Master, c'est un grand défenseur de la langue française. Je me rappelle de cette phrase en le bouquinant, et d'ailleurs c'est un super moment. Quel est pour toi le groupe de reggae français qui, si tu t'en rappelles comme ça, qui t'a fait kiffer? J'imagine que tu kiffais le reggae jamaïcain, mais quel est le groupe français dans les années 80, comme ça, milieu des années 80, qui t'a marqué, qui tu t'es dit, ah, c'est vraiment ça que j'aime, c'est ça qui me fait kiffer?
Alors moi, dans les années 80, j'étais trop petit pour avoir capté ce mouvement, parce que je viens juste d'avoir 40 ans, donc début des années 80, je suis tout jeune, tu vois. Et c'est vrai que les premiers sons dont je me rappelle, reggae, c'est les sons plus de Tonton David, tu vois, de la fin des années 80, ou de Princess Erika en 87, où je me dis, ah, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je baigne quand même plutôt dans le rock alternatif, le punk Et donc, je suis plus orienté reggae jamaïcain. Moi, je vais avoir un rapport au reggae français qui arrive un peu plus tard, au début des années 90, avec le premier Raga Sonic, produit par Frenchy.
Ouais,
et c'est vraiment
1994,
avec...
je crois, hein, si mes souvenirs sont bons.
Ouais, 94. Et c'est vraiment avec, avec cet album où, où je vois qu'en fait, le texte en français a vraiment une puissance que je ne soupçonnais pas par rapport à l'anglais. Et puis, il y a une réalité des textes qui me correspond plus que ce que les Jamaïcains racontent.
Disons que ça
donc,
nous ressemble
voilà,
plus, c'est à côté de chez nous, ça nous parle de choses qui passent aux informations, on commence à être un peu plus vieux à cette
exactement.
Époque-là, donc, et c'est vrai que Raga Sonic, on fait un grand pas.
Raga Sonic parle du sida, Raga Sonic parle de l'identité nationale déjà, parle de l'immigration, parle de la de tout un tas de...
Du capitalisme, de la différence entre les riches et les pauvres, et nous, c'est vrai qu'ils ont touché
exactement.
Directement.
Voilà, et c'est vrai qu'on a des gens qui nous... Moi j'étais en ZEP, c'est des gens qui, en fait, tout d'un coup, nous parlent comme certains rappeurs parlent à cette époque-là. Donc c'est un peu plus tard, moi, que j'ai connu, même si, en écoutant Raga Sonic, après je vais m'intéresser à ce que font Sai Sai ou Daddy Yod ou Pablo Master, mais c'est vraiment... moi, je suis plus la génération Raga Sonic.
Mais moi, je suis un peu comme toi, j'écoutais beaucoup de punk en fait, et c'est le punk qui m'emmenait après un petit peu à ce côté raga au début des années 90. Mais après, j'ai replongé dans les années 80 avec, je me rappelle, j'ai acheté des vinyles à l'époque de Pupa Leslie, avec où il y avait un mélange
bien
de
sûr.
Dub, avec, tu sais, c'était presque du dub, c'était Raga Muffin Dub, mais avec des
c'était
paroles en français.
La scène Raga Muffin, tout à fait, et c'était une époque digitale, très digitale. C'est Lord Zelko avec qui on a échangé pour le film, qui le raconte très bien. Il explique que les premiers sound systems en fait reggae. Sont en réalité des sound systems digitaux, quoi, donc la musique et électronique.
Complètement,
donc,
dans les Péniche Ruby, par exemple, à Paris, tu as dû entendre dans les squats, c'était vraiment
ouais,
ces endroits-là qui faisaient vivre ce premier reggae, mais on ne savait pas trop où ça allait pour l'instant. C'était vraiment un reggae qui n'était pas vraiment organisé, mais c'était par contre qui était proche du peuple, qui était proche de chaque quartier, ce qui était un peu le
ouais,
sound system
ouais,
d'ailleurs
ça.
En Jamaïque,
un
tu vois.
Le reggae débrouillard, hein, c'est ça, le ragamuffin, c'est vraiment le côté débrouillard. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à cette époque-là, dans les années 80, il y a très peu d'activistes, hein, finalement, en termes numéraires, qui sont dans le reggae français. Mais c'est plein de petits jeunes qui vont faire leurs armes, puisque dans ces petits jeunes dont on parle dans les années 80, fin des années 80, on a un petit gars qui s'appelle Tonton David, un autre gars qui va s'appeler Pierre-Paul Jacques, un autre gars qui va s'appeler Nutty, un autre gars qui s'appelle Big Red. En fait, toutes les grands noms du reggae français des années 90, fin des années 90, milieu des années 90, c'est des gens en fait qui ont été formés à l'école Sound System, des Pablo Master, des Stamtall, des Paulino, des King Dragon.
C'est une belle époque. Hein. Il y avait des belles choses qui se faisaient. Quand moi, je me rappelle d'avoir fait quelques petites sessions. J'allais à Paris, j'étais jeune, hein, mais j'allais à Paris quand j'avais la possibilité. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Mais il n'y a pas besoin d'argent. Il fallait juste connaître des gens, se débrouiller, être dans comme
ouais,
ça. C'était à la tchatche. Et puis tu passais des super moments. Juste, je te coupe un petit peu. Je te propose, tu parlais de Pablo Master. Et ben justement, on va s'écouter Fou d'argent, qui était aussi un militant. Il y a des superbes vinyles qui sont sortis de Pablo Master. Et d'ailleurs, il y a très récemment, il y a une compilation qui est ressortie avec un son de Manu Digital où il fait poser dessus Pablo Master, Sai Sai, il y a plein de nouveaux sons qui viennent de ressortir récemment. Moi, je kiffais Pablo Master. Je te propose qu'on s'écoute Fou d'argent tout de suite et
allez.
Qu'on se retrouve tout de suite après. C'était sur l'album Friends Connection de volume 2. Écoute ça, Pablo Master, Fou d'argent. À tout de suite, Alexandre.
Besoin de gens A, une robe, une jupe, là, je fais l'aura. Besoin de gens A, je fais le matin pour ton.
Ah yes, voilà, ça c'est sorti en 1994 aussi, Fou d'argent, Pablo Master. C'était vraiment, voilà, moi je kiffe, on en parlait avec Nico, je kiffe ces rythmes, ce ragamuffin, t'empiler des enceintes et puis tout le monde se retrouvait. Et on écoute ça à l'occasion de la sortie du bouquin Reggae Ambassador, 100% reggae français, publié par Alexandre Grondeau, qu'on a la chance d'avoir live on direct ce soir. On va le retrouver tout de suite. Alexandre, toujours là?
Ouais, toujours.
Écoute, quand j'entends ça, là, moi, je me régale. Hein. C'était vivant, ce reggae ragamuffin, on va dire. Hein, parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus du reggae en France, mais à cette époque-là, elle était quand même très ragamuffin. Et c'était vivant, il y avait des choses à dire. Il y avait.
Très dansant, ouais. Très, très dansant, très dancehall. Le côté musique électronique, ben, on le capte tout de suite. Hein. On voit bien qu'on est à la MPC, là, sur la prog. On est vraiment dans des sonorités qui sont pas route. Et en même temps. En même temps, on se rend compte que la musique est cyclique, puisque on est revenu après un peu plus tard dans l'électro, et puis, enfin dans les sons plus digitaux, et puis après on est reparti dans les sons un peu plus acoustiques. Et puis là, ces temps-ci, avec des artistes comme Bigarance notamment au niveau des instruments, on repart un petit peu vers la son dub champagne, vers des sons un peu plus digitales. On parlait hors antenne de Manu Digital aussi. On voit en fait qu'il y a toute une scène. Un peu rub dub digital et tout, c'est pas culture dub que je vais l'apprendre, hein, qui est en train d'apporter un vent nouveau. Et donc c'est vrai que c'est bien de faire la filiation aussi, quoi. J'aimerais que les gens qui écoutent Bigarance ou Taiwan MC ou d'autres artistes se rappellent que les Pablo Master, les Bad Yod, les Salsaï ont la pêche.
Et faisaient ça aussi, hein, déjà. En fait, finalement, c'est un peu une sorte de retour aux sources. Il y a des cycles comme ça de musicaux. Moi, je trouve que c'est très bien fait aujourd'hui. Ils le font très bien. Ils apportent quelque chose de nouveau. Mais finalement, moi, quand je réécoute justement les Pablo Master qu'on vient d'entendre, tu prends les sons digitaux qui sortent aujourd'hui, on est trop près. Hein. Après, il y a Biga avec son label Brigante. Il apporte quand même une touche, moi, je trouve un peu différente parce qu'il est vraiment créatif. Il va au-delà. Il a quelque chose de bien particulier à lui avec toutes les nouvelles machines aujourd'hui qu'on peut utiliser, tous ces vocodeurs. Et quand c'est bien fait, c'est joli. Quand c'est pas bien fait, c'est fait mal, mais quand c'est bien fait, c'est très joli, et Bigarance le fait très bien. Et ton livre Reggae Ambassador, justement, avec les magnifiques photos et l'histoire de chaque artiste, permet à cette jeune génération qui découvre justement Bigarance, Manu Digital ou les groupes de reggae de se dire qu'est-ce qu'il y avait avant, d'où vient l'inspiration. Et je crois qu'il est très important, ce livre. Tu vois, je dis pas ça parce qu'on se reçoit, mais parce que je trouve que moi je kiffe cette période aussi du reggae français au début des années 80, et que ce livre permet de savoir ce qui s'y est passé. Et dans ce qui s'y est passé, dans le livre, il y a que deux femmes, Alexandre Grondeau. Merci à toi d'être en direct. On retrouve Princesse Erika parce qu'elle avait fait un tube vraiment qu'avait tué, c'était le Trop de Blabla. Et puis il y a Mo Calamity. Et alors, ça a évolué quand même depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. On trouve beaucoup plus de chanteuses dans la scène reggae qu'il y a 30 ans.
C'est difficile à dire quand même en termes de nombre, parce que bon, une des difficultés, c'est vrai que sur la sélection des artistes, elle est forcément partielle. Et partielle, puisque bon, bah, dans le film, on a mis une quarantaine d'artistes. Dans le bouquin aussi, on pouvait pas mettre tout le monde. Mais si tu regardes aujourd'hui la scène, effectivement, t'as des LMK, t'as des Marina P, t'as des Mo Calamity, mais en fait, t'as pas tant de jeunes chanteuses que ça. Et puis, quand tu regardes la période des années 2000-2010, il y a très très peu de chanteuses. Dans les périodes des années 90, il y a très très peu de chanteuses. Les femmes ont jamais été, c'est aussi en Jamaïque, par ailleurs, c'est ce qu'on avait observé déjà il y a 2 ans, puis il y avait très peu de chanteuses. Donc c'est encore une carence qu'on a, alors que pour en discuter souvent avec beaucoup d'amateurs dont tu es, on aime et on adore les voix féminines sur des instrumentales reggae.
C'est vrai, et d'ailleurs en sound system dub, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de chanteuses qu'on arrive à retrouver, qu'on voit pas forcément dans des groupes de reggae, mais en sound system dub, il y a beaucoup de chanteuses qui débarquent dans les sound system. Là, j'arrive de jouer vendredi et samedi, à chaque fois il y avait des chanteuses qui étaient là, qui sont venues prendre le micro. Il y avait Samara Unuka, il y avait Makata, il y a Ustabet Sabine, il y a plein, il y a Dabama Kureja, il y a beaucoup de chanteuses qui sont là, mais en groupe de reggae qui percent comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas. Mais il y a Mo Calamity qui fait vraiment un très beau travail, et puis d'ailleurs très talentueuse, mais c'est vrai que c'est pas encore au top du top de cette éclecticité, on va dire.
Non, ouais, t'as LMK, je te disais, Marina P qui arrive à faire un peu à sortir leur épingle du jeu, mais c'est difficile dans la mesure où il y a quand même une absence médiatique, une absence à la radio qui crée des difficultés en matière de production, puisque quand t'as pas les fonds qui viennent de la SACEM au niveau de tes passages radio, t'as moins d'argent, c'est plus compliqué. T'as moins de visibilité, donc t'as moins de gens qui viennent te voir en concert, et donc c'est un peu un cercle vicieux. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, comment le reggae s'est organisé face à son absence des médias, par le do-it-yourself, par la recherche de choses alternatives. Et donc le film raconte un peu cette histoire, comment finalement que ce soit toutes les générations, les ragamuffins du début, les lions indomptables, jusqu'à la jeune génération, comment chacun est dans ce délire d'autoproduction et de do it yourself.
Mais alors justement, tu parles de ça, parce qu'on pourrait en parler toute la nuit, mais avant de se quitter, je voudrais, aujourd'hui, il y a des groupes comme Sensimilia, comme Dub Inc., comme Danakil, qui remplissent, tu disais, des zéniths, qui font des tournées, voire même des tournées internationales, hein, parce que Dub Inc., ils vont jouer à l'étranger, ils vont jouer partout. Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, les grands médias ne diffusent pas encore vraiment ces groupes-là? Pourquoi il n'y a pas encore vraiment d'émissions reggae sur les grandes ondes? Pourquoi dans les grandes heures de la journée, on n'entend pas du reggae sur les ondes? À ton avis, c'est quoi? C'est que c'est encore trop militant?
Je pense que quand le rap a réussi sa conversion au capitalisme et au néolibéralisme, et quand la techno a réussi sa conversion au capitalisme et au néolibéralisme, finalement le rock était déjà complètement aseptisé depuis très longtemps. Lui, il s'était converti déjà dans les années 70 à la grande industrie et tout ça. Je pense que le reggae, en fait, est la seule des musiques rebelles à pas avoir été domptée, quoi, à avoir conservé son intégrité en matière de thématique. Et c'est vrai que quand tes chants sont altermondialistes, sont spirituels, sont pacifistes, sont panafricanistes, c'est difficile de trouver une place sur des antennes qui sont exactement sur des positions éditoriales à l'inverse. On comprend que Bolloré, qui contrôle un certain nombre de médias, ou d'autres grands industriels qui vendent des armes, qui vendent des OGM, ou qui vendent d'autres merdes, en fait, on le comprend pourquoi eux souhaitent pas forcément avoir et donner de la visibilité à des gens qui les critiquent et qui sont des contre-pouvoirs.
Et oui, parce que souvent, ce sont ces mêmes-là qui sont directeurs des radios, qui sont enfin PDG, qui ont des groupes ou des sous-groupes qui détiennent un petit peu ces grands médias nationaux. Finalement, on peut remercier le public depuis le début, parce que c'est grâce au public qui remplit ces salles, qui achète les albums, qui se déplace en festival, qui permet aux artistes quand même de vivre, voire de survivre, mais qui permet quand même que ce mouvement ne s'arrête pas et qui fait que de s'étendre, tout en étant quand même dans ce côté indépendant.
Bien résumé, ouais, c'est exactement ça. Je pense que la caractéristique du reggae, c'est que quand tu écoutes du reggae, que tu l'apprécies, tu deviens très très vite activiste et tu fais passer le son, tu le fais tourner, tu vas faire des concerts, et le fait d'acheter du son, d'aller dans des concerts, d'acheter des bouquins comme Reggae Ambassador, c'est en fait soutenir un mouvement qui ne vit que par lui, parce que il n'y a pas d'autre aide. Donc tu as bien résumé la chose. Et reggae.fr, comme les projets que je fais au niveau de Reggae Ambassador, les livres et les films, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas d'aide et qu'on sait qu'on va pas nous tendre la main, on s'organise. On s'organise avec des gens comme Culture Dub, avec des émissions de radio, des webzines comme ça pour montrer qu'on existe. Hein. On sait qu'on gagne pas des milliers des cents parce que on n'a pas la visibilité mainstream de la télévision ou de la radio, mais on conserve notre intégrité, on conserve un certain nombre de messages alternatifs.
Et on conserve la confiance du public, finalement, quoi, ce qui est joli.
Et on essaie de se battre depuis longtemps pour essayer d'avoir une certaine unité ou cohérence entre les différents acteurs, ouais. Donc c'est vrai que c'est ça.
Et je tiens à dire aux auditeurs que je l'ai dans les mains, là, le bouquin, il est vraiment, vraiment, on en parlait, là, il l'avait pas vu, là, les amis à la radio, dans les studios, il est vraiment sublime, les photos sont d'une qualité sublime, t'as une biographie avec des interviews, avec des textes sur chaque artiste qui a fait vivre ce mouvement reggae français, Reggae Ambassador 100% reggae français. On va rappeler que c'est aux éditions La Lune sur le Toit.
La Lune sur le Toit.
Tout à fait, Alexandre Grondeau, et c'est 28 euros, où est-ce qu'on le trouve? T'arrives, toi, justement, ce bouquin, à le distribuer un petit peu partout?
Ouais, hein, alors moi j'ai de la chance parce que le succès de Génération H a fait que je suis maintenant identifié chez les libraires, chez les Fnac et sur Amazon. Donc quand j'arrive avec des projets, même un petit peu spécialisés comme ça, on nous fait quand même une petite place. Donc on est à la Fnac, on est sur Amazon, on est dans les Cultura. Si on n'y est pas, râler auprès des vendeurs, il faut qu'ils nous commandent. Et sinon, si vous voulez le bouquin et le film dédicacé, vous passez sur directement par la lune sur le toit.com et sur reggae-ambassador.com. www.ticketbook.fr et vous avez voilà, plein d'offres.
Et on rappelle que ceux qui achètent le bouquin, il y a le film qui est téléchargeable avec, on peut le regarder,
voilà,
c'est une super belle histoire.
Et
eh bien écoute,
exactement.
Je te remercie beaucoup Alexandre Grondeau d'avoir pris un petit peu de temps,
merci,
je sais que tu avais beaucoup pris. Et tu sais, on va se quitter avec, tu parlais de Bolloré, tu parlais de tout ça, mais on va se quitter avec Les Riches qui était sur le premier album de Ragasonic, Big Red Daddy Murray, avec ben voilà, du super son comme on aime, qui était bien digital. Plein de force à toi, on essaie une longue vie pour ce livre. Tu as des nouveaux projets déjà en tête, je sais que à l'intérieur de toi-même, tes neurones n'arrêtent pas de travailler pour faire vivre ce mouvement, soit le mouvement reggae, soit un petit mouvement comme Génération H ou un petit côté, c'est quoi les prochains projets d'Alexandre Grondeau?
Bon, on est sur des projets d'écriture, deux petits projets là, et c'est vrai que là pour le moment je suis vraiment en plein dans la promo et la tournée de Reggae Ambassador.
Bon,
en 2019 il va y avoir du son, de la lecture pour tout le monde, hein. Voilà, on sait que de toute façon il faut avancer. Si on le fait pas, personne ne le fera pour nous-mêmes. Donc,
bon, et puis à quand j'ai des commentaires, à quand un dub ambassadeur? On en avait parlé tous les deux comme ça en rigolant une fois.
Ah bah, dub ambassadeur, je pense que je le ferai, mais plutôt avec toi. T'as déjà bien avancé sur le texte et sur des choses. Après moi, c'est ce que j'essayais d'expliquer. À partir du moment où j'ai vu que bon les choses n'avançaient pas et qu'on pouvait compter que sur nous-mêmes, j'ai essayé d'initier pas mal de structures comme reggae.fr, comme la lune sur le toit, comme voilà des projets comme les Générations H ou les Reggae Ambassadors. Mais moi, je demande que à m'entourer de gens et à travailler avec des gens qui sont dans la même motivation. Donc on verra quand tu auras envie et quand tu auras le temps et quand nous on aura aussi les moyens de faire ça. Mais c'est vrai que il faudra le faire forcément.
Mais en tout cas, merci à toi pour toutes les opportunités et toutes les portes ouvertes que tu tends aux artistes, que tu donnes au public, que tu partages avec reggae.fr, avec ce super bouquin Reggae Ambassadeur 100% Reggae Français. Un gros big up à Lenny, à Juju, à toute l'équipe de reggae.fr. Un gros big up à toi, Alexandre, d'avoir pris le temps ce soir. Et puis je te dis à très très bientôt.
Merci, Culture Dub.
On se quitte avec
les
riches.
Très très bientôt.
Merci,
ouais,
Alexandre. Bon. Bonne soirée. Merci à toi.
Big
ciao,
up.
Ciao. Big
ciao.
Up. This is the year 19-something, not as we enter inside a new dimension in sound, featuring the Ragasonic crew, we're all massive.